trouver un moyen d'entrer dans le labo.
Je peux vous poser une question à mon tour?
Oui, allez-y. J'essaie de voir si la batterie a une charge résiduelle.
Ah oui, je comprends.
Je leur ai donné la permission d'utiliser ce labo pour ce projet.
Regardez surtout les signatures gamma. C'est exactement comme s'il y avait eu un excès de positons. Comme si c'était possible.
Vous pouvez pas comprendre, c'est une blague de physicien.
Je vais refaire les scans.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cogito, l'émission de culture scientifique de l'Université de Poitiers. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et profité des vacances option famille, amis et gourmandise. Je suis très heureuse de vous retrouver en 2013 dans Cogito, chaque premier mercredi du mois à 17h pour parler de science et de recherche avec nos experts en studio et dans les labos. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'avenir de l'image. L'image est un élément incontournable de notre société et nous allons essayer de découvrir quelle va être son évolution. De la 3D à la réalité augmentée, des chercheurs et experts de l'Université de Poitiers vont nous éclairer. Nous parlerons également de l'actualité de la recherche à Poitiers grâce à un étudiant-chercheur qui œuvre pour la recherche contre le cancer.
C'est pas vrai, je rêve.
Pulsar, c'est bon.
Allez vous faire foutre avec votre logique.
Point d'exclamation.
Bien loin de la simple photographie, je ne parle même plus d'argentique, l'ère est au numérique et à la performance. On veut du 3D, on veut plus que le reflet de la réalité, on veut de la réalité augmentée. Nous avons la chance d'avoir avec nous Arnaud Derès, fraîchement diplômé du master IME Ingénierie des médias pour l'éducation de l'Université de Poitiers. Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Nous accueillons également Christine Fernandez-Maloigne et David Ménevaux du laboratoire XLIMSIC, Signal, Image et Communication. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Habitant de Poitiers, vous connaissez certainement le musée Sainte-Croix, musée archéologique et artistique au centre-ville. Le plus grand de la région d'ailleurs par l'importance des collections. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a été le théâtre d'une expérimentation de réalité augmentée. Arnaud Derès, c'est vous qui avez mené ce projet. Alors pour commencer, pourriez-vous nous rappeler ce que l'on entend par réalité augmentée ?
Alors le concept de réalité augmentée, c'est un principe, il y a plusieurs définitions, enfin on peut faire des définitions un peu différentes en fonction du point de vue d'où l'on se pose, mais... Bon, moi, j'ai une définition personnelle, hein, c'est celle que je vous propose là aujourd'hui. C'est en fait une surcouche en fait, que l'on ajoute en temps réel à une image captée dans la réalité hein, avec un appareil, avec
un téléphone.
Un téléphone, effectivement, une tablette. On va capter une image de cette réalité et puis on va rajouter sur cette image de la réalité des éléments hein, qui sont des objets, alors ou bien des objets virtuels ou bien des cartouches, des objets 2D, des objets informationnels ou des lignes directrices, enfin tout ce que l'on juge bon de rajouter.
Donc forcément quelque chose de réel auquel on ajoute quelque chose de plus.
C'est ça, une surcouche comme un calque qu'on rajouterait sur une image captée par un outil.
Au musée Sainte-Croix, vous avez augmenté une œuvre, un tableau gigantesque de plusieurs mètres de François Nautré, qui s'appelle « Le siège de Poitiers par l'animal de Coligny ». C'est une vue de Poitiers du XIIe siècle, c'est ça, je me trompe ?
Le tableau a été réalisé au XVIIe siècle, en 1619. Il a été réalisé par le peintre François Nautré. Et il narre graphiquement le siège de l'amiral de Coligny, effectivement. Siège infructueux, il faut le rappeler, qui a duré, mais qui n'a pas eu d'effet.
Et qu'est-ce que vous avez augmenté dans ce tableau, alors ?
Alors il s'est agi dans cette expérimentation de valoriser, hein, puisque c'était un petit peu l'objectif initial de l'expérimentation, de valoriser des éléments du patrimoine historique poitevin, en l'occurrence deux bâtiments, un bâtiment qui est l'église Saint-Hilaire le Grand à Poitiers et le palais des Ducs d'Aquitaine dans le centre-ville, hein, deux bâtiments qu'on a décidé de pointer à travers ce tableau de François Nautré. Puisque Ce tableau de François Nautré, c'est une cartographie. C'est une cartographie de la ville de Poitiers. Et il nous semblait intéressant de pouvoir pointer dans ce tableau-là des bâtiments à partir desquels on allait rentrer en fait, dans l'histoire, à partir desquels on allait apporter des informations culturelles, des informations didactiques sur les bâtiments eux-mêmes ou sur le patrimoine immatériel de la ville. On s'est positionné dans la chronologie au XIIe siècle et donc on a souhaité aussi ajouter des éléments musicaux, par exemple, à notre augmentation.
Donc des enregistrements sonores qu'on peut écouter en pointant ce tableau ?
Absolument, oui. On peut, en pointant, par exemple, le Saint-Hilaire, accéder à des enregistrements vidéo et audio qui sont des reconstitutions historiques grâce à l'intervention d'un archéologue musical, Monsieur Rowe, donc qui sont des reconstitutions historiques de la musique telle qu'elle pouvait être jouée au XIIe siècle. Malheureusement, il ne reste plus d'instruments du XIIe siècle, mais on réussit à les reconstituer à partir de recherches iconographiques, des sculptures sur les façades des églises. Et là, on a des instruments qui nous permettent d'imaginer, on essaye le plus fidèlement possible, ce qu'étaient les instruments à cette époque-là.
Ouais, c'est donc beaucoup mieux que de lire les petites légendes sous le tableau. On a directement
effectivement
la vidéo, des regards d'experts peut-être, ou c'est simplement du son ?
Là, en l'occurrence, on a fait appel à des experts, hein, puisque l'expérimentation a été menée sous le regard d'un enseignant de l'université de Poitiers, qui nous a accompagnés, hein, et qui a même produit des ressources, Luc Bourgeois, hein, qui est enseignant en SHA, qui a donc produit en fait les contenus historiques qui éclairent, hein, ce tableau. Il faut imaginer la scène. Donc vous êtes au musée Sainte-Croix, devant le tableau, à peu près à 3-4 mètres. Vous avez votre tablette numérique ou votre téléphone. Vous le pointez vers le tableau. Je passe les étapes techniques, mais vous le pointez vers le tableau. Votre téléphone reconnaît ce tableau, et puis il va rajouter donc sur l'écran de votre mobile des points, hein, vont être cliquables, qui seront des sources, des entrées, des menus vers des ressources. Voilà le principe en gros de la réalité augmentée sur le Nautré du musée Sainte-Croix.
C'est un projet que vous avez mené pendant votre stage de master dans le cadre d'une reprise d'études avec différentes étapes, de nombreux intervenants, une dizaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Donc vous avez développé un projet d'envergure. Que devient tout ce travail aujourd'hui ? C'est encore visible au musée Sainte-Croix, j'imagine ?
Oui, c'était initialement une expérimentation pour alimenter un mémoire, mais finalement ça s'est révélé être suffisamment opérationnel pour pouvoir continuer. Donc l'expérimentation est toujours continue et elle est toujours visible. Elle n'a pas été arrêtée. Elle est toujours visible au musée Sainte-Croix. Donc j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller au musée Sainte-Croix quand ils le veulent. Alors il faut être équipé, puisque je crois que aux dernières nouvelles, le musée Sainte-Croix n'était pas équipé pour les visiteurs, mais avec un téléphone, ce qu'on appelle un smartphone maintenant,
on peut accéder,
ou une tablette, on peut accéder, qu'elle fonctionne, que ce soit sous iOS ou sous Android, d'ailleurs, les deux fonctionnent.
Parfait.
Et donc là-bas, avec une connexion 3G aussi, on peut aller expérimenter la réalité augmentée sur le Nautré.
Dans un musée qui est gratuit le mardi, je vous le rappelle. Donc, étudiants, allez-y le mardi. Merci beaucoup, Arnaud Dérès, pour tous ces éclairages. Nos auditeurs peuvent retrouver les détails de votre projet de réalité augmentée au musée sur votre site internet, addesign, c'est ça ? .fr.
Oui, et surtout sur aliénor.org, qui est le partenaire auquel j'ai sollicité pour les parties programmation technique, hein, très très spécifique. Donc c'est le Conseil des musées Poitou-Charentes, et vous pouvez retrouver tous les détails de l'expérimentation sur aliénor.org.
Nous marquons maintenant une courte pause musicale avant d'aborder notre chronique Actualité de la recherche à Poitiers. Je suis allée rencontrer Sylvain Fresneau qui vient juste de soutenir sa thèse sur une protéine qui pourrait faire avancer la recherche contre le cancer. A tout de suite dans Cogito sur Pulsar.
N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, il serait donc dans tel amour, comme un peintre qui sur ses doigts mettre les couleurs du jour qui nous n'aurions pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Dépassant endormi dans mes bras,
suspension.
Minute au papillon.
Fermez les yeux.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
As you like it, baby.
Ouvrez les yeux.
Je remets la radio si ça vous ennuie pas.
Bien sûr, vous êtes chez vous.
Pulsar.
Pulsar.
Vous êtes dans Cogito, l'émission de culture scientifique de l'Université de Poitiers. Il y a seulement quelques jours, les travaux d'une équipe de recherche de Poitiers ont été publiés dans une revue internationale d'importance. L'Institut de physiologie et de biologie cellulaire de l'Université de Poitiers, dans la zone B du campus, a fait une découverte majeure sur des signaux cellulaires qui régulent la formation des vaisseaux sanguins. Cette découverte pourrait permettre d'avancer dans la lutte contre plusieurs maladies, dont le cancer. Je suis allée rencontrer Sylvain Fresneau, qui est co-auteur de cette publication, aujourd'hui ancien étudiant puisqu'il est fraîchement diplômé. Il vient tout juste de soutenir sa thèse au mois de décembre. Voilà l'environnement de Sylvain, un bureau où il a réalisé ses recherches et rédigé les 300 pages de sa thèse. Imaginez une bibliothèque bien remplie qui déborde sur un bureau déjà bien chargé. et un laboratoire où il a mené 3 ans d'expérimentation. Là, une affiche jaune et noire nous met en garde. Attention, risque biologique, blouse obligatoire. 3 portes délimitent des sas qui étouffent le ronronnement incessant des hôtes aspirantes. Si l'environnement est intimidant, l'ambiance, elle, est conviviale. On fait de la recherche de haut vol, mais c'est la cafette qui reste un endroit très important. La recherche, c'est avant tout une question d'échange et de collaboration. Sylvain nous explique son travail et ses enjeux avant de nous dire quelques mots sur ses projets, maintenant qu'il est officiellement docteur. On l'écoute.
La protéine S est une protéine en fait qui existe naturellement dans la circulation sanguine et dont le rôle historique est d'empêcher la formation des caillots dans le sang. Nous, ce que nous avons démontré dans la publication, c'est que, outre ce rôle sur la coagulation, la protéine S est également capable d'empêcher l'attraction des vaisseaux sanguins et la formation des vaisseaux sanguins.
Justement, à propos de tumeurs, on peut lire dans la publication que ces recherches peuvent avoir des implications contre le cancer.
Alors, la tumeur, afin de poursuivre sa croissance, a besoin d'attirer les vaisseaux sanguins pour avoir un apport en oxygène et en nutriments. Sans cet apport en oxygène et en nutriments, elle va rester sous forme quiescente et ne pourra pas poursuivre sa croissance. Donc pour ce faire, elle va sécréter des facteurs qui vont attirer les vaisseaux sanguins qui sont déjà présents dans l'organisme, ce qui va permettre d'apporter à nouveau, de lui apporter des nutriments et de l'oxygène pour poursuivre sa croissance, mais aussi pour lui permettre de disséminer des cellules donc qu'on avait appelées des cellules métastatiques qui vont coloniser donc les autres organes du corps, et cela va aboutir à la généralisation du cancer. Donc l'intérêt de cette protéine S dans le cadre du cancer, c'est tout simplement d'empêcher ce phénomène d'attraction des vaisseaux sanguins sur la tumeur, ce qui va limiter donc sa croissance, empêchant également la généralisation du cancer qui aboutit au décès d'un patient.
Cette publication, c'est juste une petite partie de ta thèse. Dis-nous-en un peu plus sur qu'a été ton travail de thèse plus globalement.
Cette publication fait partie de mon travail de thèse, mais d'autres aspects ont été développés à partir de cette chape initiale. Donc le projet a dérivé et a abouti à d'autres projets annexes qui sont toujours associés à la formation des vaisseaux sanguins. Donc c'est également une partie de mon travail de thèse qui a été très intéressante, en plus des travaux, des tâches, je dirais, administratives, des tâches de lecture de travaux réalisés par d'autres chercheurs pour se tenir au courant de ce qui se passe dans notre domaine et qui constitue une part importante du travail, sans oublier les activités d'enseignement que j'ai eu la chance de réaliser au cours de ma thèse et qui ont été pour moi une expérience très intéressante et exaltante.
Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours d'étudiant à faire une thèse, à te lancer dans la recherche ?
C'est quelque chose que j'avais à l'esprit presque depuis le début de mes études. Donc j'ai commencé mes études à l'IUT de La Rochelle. Donc m'orientais plutôt vers une carrière de technicien de laboratoire. Et mon premier contact avec le milieu de la recherche a été mon stage de deuxième année de DUT à l'IFREMER, où j'ai pu appréhender le quotidien d'un chercheur et vraiment le monde de la recherche. Et ça m'a donné envie de poursuivre après en licence et de m'orienter vers une carrière de chercheur et plus particulièrement d'enseignant-chercheur pour pouvoir dispenser après mes connaissances et essayer d'apporter aux étudiants les choses que j'ai apprises et partager avec eux tout ce savoir qui est toujours très intéressant. J'ai poursuivi après mon cursus à l'université de Poitiers en physiologie. Suite à mon stage de master, j'ai décidé de poursuivre en thèse sur ce sujet. Je crois que voilà, c'est quelque chose qui m'a poursuivi à peu près depuis cette fameuse deuxième année de DUT, et c'est quelque chose que j'avais en tête depuis cette époque-là.
Comment et où te vois-tu dans les prochains mois, dans les prochaines années ?
J'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'on m'a proposé un poste pour continuer à travailler dans la recherche, et plus particulièrement toujours dans ce système de formation des vaisseaux sanguins. dans une équipe canadienne, donc sous forme d'un contrat postdoctoral à l'Université d'Ottawa, que j'espère rejoindre très prochainement, au mois de janvier ou au mois de février prochain, une fois que toutes les procédures administratives seront réglées.
C'était Sylvain Fresneau de l'Institut de biologie cellulaire et physiologie de l'Université de Poitiers. On lui souhaite bonne chance pour la suite de son parcours. Nous marquons à nouveau une courte pause musicale avant de nous replonger dans l'image. Après une introduction palpitante sur la réalité augmentée, nous allons nous intéresser à la création des images de synthèse et en trois dimensions. Un beau programme encore, restez avec nous dans Cogito sur Pulsar.
Maman, je pense à toi, je t'écris d'un trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu t'ennuies ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au goût de ma fée. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. N'aie pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris.
Vous savez, ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres et si joliment ouvragées.
Pulsar, c'est bon.
Les oreilles entendent à nouveau.
Point d'exclamation.
Comme nous avons pu le voir tout à l'heure, la réalité augmentée est utilisée dans la culture, l'archéologie et bien d'autres domaines encore. L'image s'augmente, mais se crée également. Les techniques se multiplient et s'améliorent pour rendre l'image de synthèse de plus en plus réaliste. Pour le cinéma d'animation et la 3D, mais également dans de nombreux autres domaines, peut-être moins ludiques, mais non moins utiles. Daniel Menveau, pardon, je vous ai appelé David tout à l'heure. Daniel, donc, vous travaillez au sein du laboratoire Signal, Image et Communication SIC de l'Université de Poitiers sur la simulation d'éclairage et le rendu réaliste. Vous programmez les logiciels qui vont permettre de fabriquer numériquement des images. Alors moi, j'ai en tête la création d'images pour le cinéma, les films d'animation, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres domaines où on utilise ces technologies. Pouvez-vous nous dire lesquels, hein, quelques exemples?
Alors, il y a de très nombreux exemples. Alors, il y a évidemment tous les logiciels ludiques, hein, le jeu vidéo, etc. Presque à chaque fois qu'on regarde une émission à la télé, rien que les logos publicitaires sont souvent faits en images de synthèse. Il y a beaucoup de réalisations qui sont faites aussi pour l'architecture. Par exemple, de la modélisation de bâtiments, pour la visualisation, pour faire des études acoustiques, thermiques, etc. Il y a une base qui est la construction de la forme des objets. Et puis, on va retrouver aussi tous les simulateurs, auto, moto, aviation, où on va non seulement avoir la forme des objets, mais également tous les aspects dynamiques qu'il va falloir prendre en compte. Et un autre exemple, c'est par exemple l'archéologie avec lesquels on a des contacts, les collègues archéologues avec lesquels on a des contacts pour remodéliser certains sites détruits ou même existants, essayer d'analyser par exemple des peintures. Donc là, on travaille aussi avec les collègues des autres équipes. Et puis il y a tout un pan très très important qui consiste à essayer de faire coller les résultats des simulations à des mesures de capteurs. Par exemple, avoir une simulation qui donnerait la même image qu'une photographie, par exemple.
Alors il y a non seulement la modélisation géométrique, c'est pour reconstruire, créer un objet, sa forme, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle la définition de matériaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement?
Oui. Alors déjà, il y a plusieurs étapes pour arriver à construire une image de synthèse. Effectivement, la première, c'est la création de la forme des objets, leur positionnement dans l'espace. Donc c'est ce qu'on appelle la modélisation géométrique. Pour pouvoir avoir une image de synthèse réaliste, il va aussi falloir prendre en compte les effets de la lumière sur les objets. Donc on va devoir représenter, ou nous on dit modéliser, les sources lumineuses, leur position, la manière dont elles émettent la lumière, et puis la façon aussi dont les objets vont réfléchir la lumière. Donc ça, c'est les trois éléments de base. À partir de ça, on va pouvoir commencer à réaliser des calculs de simulation d'éclairage, c'est-à-dire simuler les transferts lumineux à l'intérieur de l'environnement. Et cette partie-là est délicate parce que un flux lumineux qui arrive depuis une source va éclairer des objets, la lumière va être réfléchie dans toutes les directions, donc vers les autres objets. Et donc il va falloir faire ces calculs-là de façon... Normalement, il faudrait le faire de façon infinie. Donc il faut trouver des moyens pour s'arrêter avant. Et puis ensuite, il y a le calcul de l'image. Donc il va falloir projeter ces objets-là sur une caméra virtuelle de façon à calculer la valeur rouge-vert-bleu de chacun des pixels de l'image.
On a fait vraiment beaucoup de progrès dans ces domaines, mais quelles sont les difficultés qui persistent encore aujourd'hui dans la création d'images? Qu'est-ce qu'on a du mal à faire? Le plus difficile, qu'est-ce que c'est?
Alors, il n'y a pas de plus difficile. Chaque domaine, hein, j'ai parlé des trois domaines, modélisation géométrique, etc. Chaque domaine a ses propres thématiques de recherche. Fabriquer un objet existant à partir d'un outil comme Maya, 3ds Max ou par exemple Blender qui est gratuit, demande des heures et des heures de construction. Donc de plus en plus, les gens s'orientent vers de l'acquisition, par exemple à partir de laser ou à partir de photographie. Mais ce point-là est difficile tout autant que les autres. Nous, par exemple, en ce moment, on travaille sur des problèmes de reconstruction, enfin de modélisation d'apparence de matériaux, aussi avec d'ailleurs des collègues d'une autre équipe, parce qu'on ne sait pas reproduire aujourd'hui tous les matériaux de manière synthétique. Et le problème de la mesure, eh bien, c'est qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de données, et pas forcément depuis les directions dans lesquelles on observe les matériaux. Donc tout ça, c'est des problèmes qui sont compliqués. Et pour finir, là, un autre problème sur la simulation d'éclairage, avoir quelque chose de très, très précis demande des jours de calcul. Donc il faut arriver à produire des résultats qui soient réalistes, perceptuellement aussi, j'insiste là-dessus, parce que ça fait encore partie des domaines sur lesquels on travaille avec les collègues des autres équipes, qui soient perceptuellement crédibles.
C'est-à-dire qu'on... perceptuellement...
C'est-à-dire que l'œil humain ne perçoit pas toujours toutes les sensibilités, donc on peut se permettre
dans certains
cas...
Donc ça ne sert à rien de faire une sensibilité supérieure à celle de l'œil.
Oui, mais aujourd'hui on connaît encore assez mal la manière dont on perçoit tout. Alors, on connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas tout. Et on travaille justement sur ces domaines-là pour essayer d'améliorer les résultats et réduire les temps de calcul parce qu'on aimerait avoir des environnements dynamiques, des objets qui bougent, une caméra qui se déplace et tout ça à, si possible, plusieurs dizaines d'images par seconde.
Alors nous, on en entend surtout parler dans le cinéma. Par exemple, dernièrement, un dernier film d'animation en 3D qui vient de sortir, l'Odyssée de Pi de Ang Lee. Avec un tigre dont la création à 80% virtuelle a mobilisé une équipe de plus de 15 personnes. Alors là, ça reste ludique, c'est pas très grave finalement si on n'y arrive pas. Mais plus généralement, quels sont les enjeux de l'amélioration des techniques de création de l'image pour l'avenir? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait, toutes ces reconstitutions?
Ce que ça va apporter, alors un des objectifs, c'est justement de réduire le temps de développement pour construire ces objets virtuels. Aujourd'hui, 15 personnes et des mois de travail, c'est le cas pour tous les films d'animation. Et ensuite, la production des images nécessite également plusieurs semaines de calcul, parce qu'il y a un grand nombre d'images avec des effets de mouvement, avec des problèmes de, on appelle ça des problèmes d'aliassage, de marge d'escalier sur les images. Donc il faut faire beaucoup, beaucoup de calculs. Et l'objectif, c'est d'accélérer, d'améliorer les modèles de façon à les rendre de plus en plus réalistes. Par exemple, là, un exemple qui est relativement marquant, il me semble, c'est pour le film Shrek, que tout le monde doit connaître. Il y a eu une publication internationale à la plus grosse conférence mondiale du domaine de la synthèse d'image pour la peau de Shrek.
Merci pour ces échanges passionnants. Malheureusement, on ne peut pas en discuter davantage. On est un peu pris par le temps. Christine Fernandez-Maloigne, vous travaillez aussi sur l'image dans ce même laboratoire dont vous êtes la directrice. D'autres chercheurs, comme vous venez de le dire, dans d'autres équipes de recherche, travaillent sur plusieurs disciplines. On en parle tout de suite après. Restez avec nous sur Pulsar.
Entre Point d'interrogation.
Attendez, j'ai encore un tour de magie, les discours c'est plus très tendance.
Tu fatigues tout le monde, qu'est-ce que t'en sais toi de ce qui est tendance? T'as vu ta tête?
Pulsar.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans Cogito, l'émission de culture scientifique de l'Université de Poitiers. Depuis 17h, nous nous intéressons à l'image de synthèse, aux technologies 3D et à la réalité augmentée. Nos invités, Arnaud Derès, Daniel Ménevaux et Christine Fernandez-Malouagne, nous éclairent sur ces thématiques en mutation. Christine Fernandez-Malouagne, vous êtes professeure et directrice du laboratoire XLIMSIC, signal image et communication de l'Université de Poitiers, où trois grandes thématiques sont étudiées. La première, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure avec Daniel Ménevaux, réalité augmentée, reconstruction d'images en 3D. Okay. Le laboratoire s'intéresse aussi à la protection des images, à la mise au point de techniques de tatouage. Et des recherches sont également menées sur la traçabilité des images et la cybercriminalité. En plus d'être directrice du laboratoire, vous êtes toujours chercheuse.
Je sais.
Vous travaillez dans l'une de ces équipes en particulier ou vous participez à l'ensemble ?
Non, je travaille plus particulièrement dans une équipe qui a été évoquée par Daniel, l'équipe ICONE, qui travaille donc sur le traitement et l'analyse automatique d'images réelles cette fois-ci, c'est-à-dire acquises à partir de scènes de la vie de tous les jours, contrairement aux images de synthèse ou de réalité augmentée qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc mon domaine est plus particulièrement celui de la prise en compte du système visuel humain. Donc pour optimiser ces traitements automatiques et notamment des traitements de protection des images, dans le cadre de la transmission, on a une de nos équipes aussi qui travaille sur les réseaux de capteurs sans fil. Donc c'est important aussi de pouvoir protéger les images que l'on transmet via ces réseaux de capteurs. Et puis également, donc en lien avec l'équipe informatique graphique qu'anime Daniel, puisque comme il l'a dit, quand on fait de l'image de synthèse, ça ne sert à rien d'aller trop loin dans le raffinement des algorithmes si finalement le système visuel humain ne voit pas la différence. Donc on travaille beaucoup ensemble sur ces aspects-là d'optimisation de la complexité et de la durée des algorithmes.
En ce qui concerne la protection des images avec ces nouvelles formes d'images, de réalité, 3D, etc., on ne peut pas empêcher l'utilisation d'une image, donc il faut la protéger, la marquer. Okay. Alors, comment on fait pour marquer une image ?
Ah, c'est bien compliqué à expliquer. On va dire tout simplement, il y a plusieurs procédés. Hein. On connaît tous Canal+ avec le cryptage. Ça, on va dire qu'à la limite, c'est le plus facile, même s'il y a toujours des pirates pour trouver une façon de décrypter l'image. Le plus compliqué, c'est d'insérer des marques dans les images qui vont faire que, on va reconnaître quel est l'auteur de cette image. Donc, on va pouvoir déterminer les droits d'auteur associés à cette image, tout en permettant la visualisation du contenu de l'image sans que ça soit dégradé par une marque quelconque. Il y a beaucoup d'enjeux socio-économiques, par exemple, dans le cinéma, pour éviter les films en salle. Alors, ça se fait beaucoup au Canada, peut-être pas trop en France, mais dans d'autres pays, où des gens viennent filmer en salle les films et ensuite les redistribuent. Et oui. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre une marque invisible au sein de l'image en jouant sur les fréquences. Donc les fréquences de projection, les fréquences des caméras, les fréquences du système visuel humain aussi, pour faire en sorte que cette marque, elle soit invisible quand on projette dans des conditions normales de cinéma numérique. Et puis que par contre, si quelqu'un copie de manière illicite, eh bien la marque va apparaître sur les contrefaçons, en quelque sorte.
Donc pour réussir à faire ça, on part de l'œil ?
Totalement, oui. C'est un travail qui est passionnant parce qu'il se fait à l'interface d'autres disciplines liées à la physiologie. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'appréhender finalement certains fonctionnements du système visuel humain, dont on est bien loin de tout connaître, comme l'a dit Daniel, mais tout au moins d'essayer, à partir de ce que l'on connaît déjà, eh bien, de faire des modèles, des filtres, finalement, qui vont être inclus dans les traitements numériques des images. Et là, il y a de gros enjeux, notamment dans le domaine du 3D. On a parlé beaucoup du cinéma numérique en 3D, qui fait le plaisir des étudiants et aussi des plus jeunes. Bah, par contre, il y a beaucoup de questions par rapport aussi à la santé publique. On se pose des questions sur l'impact, par exemple, de ces images en 3D. Donc, il y a des enjeux économiques, mais il y a aussi des enjeux de santé publique. Et puis, il n'y a pas que ces aspects-là. Il y a aussi ce que vous avez évoqué avec la cybercriminalité. Donc la cybercriminalité, ça recouvre plusieurs aspects. Il y a par exemple des images avec des contenus illicites qui pourraient être introduits alors, sur des sites web. Hein, on peut penser tout simplement à la pornographie avec des corps d'enfants qui pourraient être ajoutés de manière illicite. Donc ça, il faut pouvoir les retrouver automatiquement parmi des contenus qui ne sont pas forcément des contenus justement où on s'attend.
On crée des logiciels pour les localiser, c'est ça ?
Voilà, pour essayer de retrouver automatiquement par exemple des textures de peau. On en revient, là c'est plus Shrek, mais on va trouver des textures de peau, donc de corps nus à des endroits où on ne s'y entend pas forcément, de façon à pouvoir localiser des sites pornographiques par exemple.
Et ça, ce sont des techniques qui sont déjà en place.
Ce sont des techniques en place, qui ne sont pas infaillibles. Il y a d'autres techniques aussi cette fois-ci pour garantir l'intégrité du contenu des images. Donc là, l'intégrité d'une information, ça c'est très important. Alors il y a des choses un peu, on va dire, people, comme les fameux petits bourrelets qui auraient été enlevés sur une photo de notre ancien président de la République, par exemple, sur une couverture de Paris Match. Mais il y a d'autres choses. On peut très bien falsifier une image. Or, comme aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, l'image, la vidéo, c'est devenu quand même un support de communication de l'information privilégié qui va être transmis via nos téléphones mobiles, nos ordinateurs, nos tablettes, et puis même directement depuis les appareils photo numériques. Hein. En ce moment, on fait des pubs où on voit qu'avec son appareil, on peut envoyer une image qu'on vient d'acquérir à l'autre bout du monde. Ben, il faut garantir que cette image est une image de la réalité.
Alors, en plus de la recherche fondamentale, vous développez des partenariats avec des entreprises, d'autres structures. Pourquoi font-ils appel à vous, enseignants-chercheurs ? Vous pouvez répondre tous les deux, Daniel aussi, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que ces entreprises recherche à l'université ?
Alors ces entreprises recherchent en fait une part d'innovation qu'elles n'ont pas le temps de mener dans leur service de R&D. Donc ces entreprises qui peuvent être de grosses entreprises, j'ai parlé du cinéma tout à l'heure, on a des brevets déposés avec Technicolor par exemple dans le cinéma numérique, mais ça peut être aussi des PME de la région. Et en fait ces entreprises veulent apporter une plus-value à leurs clients de par finalement l'apport dans leurs produits de l'innovation. Donc nous ne sommes pas là pour développer des produits, mais nous sommes là pour faire la recherche amont qui va être directement transférable dans leur domaine d'application.
Nous, on avait été contactés, pour donner un exemple, par deux entreprises du site du Futuroscope qui étaient intéressées pour développer des systèmes de visualisation sur Internet. Mmh. Et bien souvent, les questions qu'elles posent, on connaît la réponse depuis déjà quelques temps et on peut leur apporter cette réponse-là directement. Et ensuite, le développement, on le réalise en partenariat avec eux. Donc, c'est des projets qui sont vraiment intéressants parce qu'on voit l'aboutissement, finalement, et la mise en pratique de nos travaux de recherche.
D'accord. Donc, d'un côté, ils ont l'expertise à sa source et de l'autre, vous avez finalement le résultat de toutes vos recherches. Christine Fernandez-Maloigne, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Les auditeurs fidèles au concept Cogito vous auront peut-être reconnu puisque Cogito n'est pas seulement une émission de radio, mais c'est aussi un magazine et une plateforme de blog. Et vous avez participé cet été au magazine numérique hors série sur les JO avec un article sur une étude avec les basketteurs du PB86. Alors vous qui nous écoutez, si vous aimez Cogito et que vous venez de vous faire offrir une tablette pour les fêtes, c'est le moment de le télécharger. Vous retrouverez le mag dans l'onglet Recherche Cogito du site internet de l'Université de Poitiers. Vous pourrez en même temps faire un petit détour par le musée Sainte-Croix avec votre toute nouvelle tablette. Je remercie encore tous nos invités, Arnaud Derès qui nous a fait rêver, augmenté bien sûr, avec son projet au musée Sainte-Croix, Daniel Ménevaux, merci d'avoir éclairé nos lanternes sur la création d'images numériques 3D et Christine Fernandez-Maloigne sur la protection des images. Le sujet est vaste et bien d'autres chercheurs de Poitiers auraient pu apporter leur contribution au regard de leur discipline en droit, archéologie, communication, etc. Mais il nous faudrait une journée entière d'émission Cogito pour tout aborder. Nous marquons une dernière pause musicale avant de passer à la dernière partie de l'émission consacrée au portrait de Pascal Drouet.
Chercheuse en littérature et théâtre, elle est spécialiste de Shakespeare. Elle nous parlera d'histoire des sciences avec Copernic. Sans oublier l'agenda, à tout de suite dans Cogito sur Pulsar.
Encore un matin comme tant d'autres, la journée déjà bien entamée, j'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour atteindre la cafetière, la tête dans le fion, je cherche la révélation. Jette un œil dans la rue, les gens ne se regardent même plus, rien n'a changé depuis hier. Le même junkie vissé devant le tabac qui mendie, la même boiteuse avec sa gnôle à la béquille, les mêmes bagnoles pressées et qui se pressent et qui se scratchent en bas de mes escaliers. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Un peu plus tard, le téléphone sonne. C'est Bécassine, ma cousine, qui vient d'être virée de son usine. Elle me déballe ses tracas, je lui demande si ça va. Elle me dit, tu m'écoutes pas, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai la tête en vrac, les impôts me traquent. J'ai même pas de quoi me payer un sac et mon mec me plaque. C'est quoi cette vie, une blague ou une arnaque? Ça fait du bien de vider son sac à la famille. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Je raccroche le combiné, je prends les clés pour aller voir le courrier. Modou des acédiques pour m'informer que j'ai plus de fric. La journée commence très chic. Des petites bourgeoises qui pètent plus haut que leur cul et qui sont abonnées à l'ONU, qui parlent de la famine en repoudrant leurs petites mines. Nous sommes envahis par des vermines. Je suis virulente contre les virus rapides, l'économie de ces raspivides, ces ours qui spéculent à la bourse, atteints de fièvre acheteuse, couchés sur leur pécule. Mais ces animaux-là ne traînent pas dans ma rue, protégés dans leurs zoos par une armée de blaireaux. Et moi je pense à ça, toujours derrière mes carreaux. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la 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 bla 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 bla.
Pulsar 95.9.
Ah ouais.
Pascale Drouet est chercheuse à la faculté de lettres et langues de l'université de Poitiers. Angliciste, elle enseigne la littérature britannique, le théâtre de Shakespeare et la traduction. Elle n'aurait jamais imaginé, étudiante, qu'elle serait professeure d'université. Pourtant, l'enseignement l'a toujours attirée, et ce, dès le début de ses études de lettres. Après 2 ans d'expérience en tant qu'enseignante au secondaire, elle reprend ses études. Elle veut aller plus loin. La décision est prise, ce sera une thèse en littérature britannique. Le choix est réfléchi. Pascal Drouet ne veut pas de réchauffer. Il lui faut de la nouveauté, un domaine qui manque de spécialistes pour apporter quelque chose de plus, quelque chose d'utile. La jeune chercheuse se passionne rapidement pour le théâtre de Shakespeare. Après des postes dans les universités de Lyon, Reims et Limoges, elle arrive à l'université de Poitiers il y a 8 ans. L'année dernière, elle monte en grade et devient professeure. Cette année, elle prend la direction du département d'anglais. Rien ne l'arrête. Côté recherche, elle s'intéresse à Shakespeare en contexte, dans sa perspective historique, mais aussi et surtout sur les façons dont on l'adapte et comment on le représente aujourd'hui. Pascale Drouet s'intéresse aux apparitions du dramaturge dans les œuvres de poètes ou de peintres. L'important, c'est le lien, l'originalité. Alors, Pascale Drouet écrit des livres pluridisciplinaires et s'engage dans le comité éditorial d'une revue en ligne, Les Cahiers Shakespeare en devenir. Pour elle, on ne peut pas se contenter d'écrire des livres. Elle s'investit, elle s'engage. C'est sa façon de lutter contre la morosité à grands coups de dynamisme. En plus de cela, Pascale Drouet communique sur son blog Connecting Shakespeare. Toujours pour faire du lien et garder le contact avec les étudiants, les gens, bref, la société. Un seul mot d'ordre, l'enthousiasme. Comme un bon portrait n'est pas complet sans la voix du premier concerné, je laisse Pascale Drouet présenter la chronique Histoire des sciences. Elle s'est prêtée au jeu avec enthousiasme et nous présente les rapports entre Copernic et Shakespeare. Son intonation est digne d'une actrice de théâtre. On écoute Pascale Drouet.
J'aimerais mettre en relation Copernic et Shakespeare. Hormis la célébrité qui les relie, quel peut bien être le rapport entre l'astronome polonais, né en 1473 et mort en 1543, et le dramaturge britannique, né en 1564, mort en 1616, soit entre deux hommes de nationalités différentes qui ont presque un siècle d'écart, l'un s'intéressant aux sphères célestes, l'autre à l'âme humaine. Eh bien, ce qui les relie, c'est la révolution à laquelle Copernic a donné son nom et qui entre en résonance avec l'œuvre dramatique de Shakespeare. Dans la première moitié du XVIe siècle, Copernic est l'initiateur de la révolution cosmologique. Il découvre que l'univers n'est pas géocentrique, ni par conséquent anthropocentrique. Il est héliocentrique, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non le cosmos qui s'organise tout entier autour de la Terre, comme l'exposait la thèse aristotélicienne. Autrement dit, Copernic, qui sera suivi par Kepler et Galilée, lesquels confirmeront ses découvertes, impose un changement de perspective radical qui implique un décentrement, qu'on peut dire pour l'époque révolutionnaire. L'homme n'est plus au centre de l'univers. À la charnière du XVIe et du XVIIe siècle, l'Angleterre, qui voit naître Shakespeare et qui est alors gouvernée par la reine Élisabeth Ière, lance une série d'expéditions maritimes vers le Nouveau Monde. On y découvre l'altérité, l'existence de l'autre en sa différence. Non seulement l'homme n'est plus au centre du monde, sur le plan macrocosmique, mais sur le plan microcosmique, l'homme occidental, donc l'homme britannique en l'occurrence, ne l'est plus non plus. On découvre le relativisme culturel. C'est pour l'homme de la Renaissance l'épreuve d'un double décentrement. Ce qu'on croyait fixe et circonscrit dans des limites connues ne l'est pas. La cosmologie et la cartographie, c'est-à-dire la représentation macrocosmique et la représentation microcosmique, en sont toutes les deux profondément affectées. Des notions telles que le monolithisme, l'absolutisme, le monocentrisme et l'univocité sont remises en cause. Ce qui servait de point d'ancrage immuable devient relatif. On devient attentif à la multiplicité des points de vue. Le théâtre de Shakespeare est parcouru par cette conscience nouvelle du décentrement et de la relativité, et il s'en fait l'écho en ce qu'il produit une pluralité de voix qui donne lieu, sur scène, à une véritable polyphonie discursive. Qu'il s'agisse des pièces historiques ou des pièces romaines, des comédies ou des tragédies ou des tragicomédies, Shakespeare nous donne à entendre le point de vue de chaque personnage, quel que soit son rang social. Il nous donne à entendre le central et le marginal, ce qui est fixe et ce qui gravite, le discours et le contre-discours et toutes les paroles minoritaires. Si son spectateur reste un point fixe, Shakespeare lui fait vivre le temps d'une représentation, l'expérience déstabilisante du décentrement et le confronte à la délicate pluralité interprétative. Shakespeare nous invite à nous méfier des acquis et des perspectives fallacieuses. Il nous invite à affirmer, quitte à remettre en question l'idéologie dominante, les libertés d'interprétation et d'expression. Et en cela, il rejoint l'exigence épistémologique et existentielle de Copernic.
C'était Pascale Drouet à propos de Copernic et de Shakespeare. N'hésitez pas à visiter son blog Connecting Shakespeare à l'adresse blog.univ-poitiers.fr/p-drouet. Pour découvrir le dramaturge à travers le regard passionné de la chercheuse. Il est temps de passer à notre agenda de la culture scientifique à Poitiers. Commençons par une conférence, l'espace et le vide dans la physique médiévale. Le philosophe Joël Billard vous invite à un voyage dans l'espace et le temps, ou comment la physique médiévale expliquait le vide, le corps et le mouvement. Une conférence qui s'annonce passionnante, mardi 8 janvier à 18h30 à l'espace Mendès France. Si vous aimez l'histoire, vous pourrez découvrir ou redécouvrir un personnage incontournable du Moyen-Âge, Attila, le roi des Huns. Dans la conférence Attila dans la littérature médiévale, Edina Bozoki fera le portrait de ce personnage contrasté dont l'empreinte marque encore aujourd'hui le paysage européen. Jeudi 17 janvier à 18h à l'hôtel Fumé au centre-ville de Poitiers. On reste dans l'histoire, mais l'histoire de la physique cette fois. Vous le savez peut-être déjà, l'Université de Poitiers ouvre ses portes à tous dans le cadre du projet Université citoyenne. Vous pouvez donc suivre, entre autres bien sûr, le cours de Patrice Remeau à l'ENSIP, l'école d'ingénieurs de Poitiers. Au programme de ce mois-ci, la théorie du Big Bang, d'un univers clos à un univers infini. Les cours ont lieu la semaine du 14 janvier, soit lundi, mardi ou vendredi, de 10h à midi. Patrice Remeau est un conférencier comme il y en a peu, impossible de s'ennuyer, je suis prête à vous garantir personnellement. N'oubliez pas également qu'il y a toujours des expositions ou des ateliers au sein même de l'université. Par exemple, dans les bibliothèques universitaires, le service du livre ancien propose des conférences en soirée ou entre midi et deux. En janvier, Zoom sur les traités d'entomologie du XVIIIe siècle. Ces livres illustrés sur les insectes se multiplient avec l'invention du microscope. C'est une occasion de découvrir une période de l'histoire à travers des ouvrages plusieurs fois centenaires à manipuler avec soin. Les prochains rendez-vous ont lieu lundi 21 et vendredi 25 janvier à la BU Lettres et Langues, bâtiment A2 sur le campus de Poitiers. C'est gratuit et ouvert à tous. Pour finir cet agenda, dans un mois tout pile a lieu un événement très important pour l'Université de Poitiers, c'est les journées portes ouvertes. Que vous soyez lycéen ou étudiant en quête d'orientation ou de réorientation, il est possible de visiter certains laboratoires et de rencontrer les enseignants-chercheurs. Une façon efficace et festive d'en savoir plus sur les formations offertes dans chaque faculté. Samedi 2 février, toute la journée. Voilà pour le programme scientifique et culturel du mois de janvier. J'espère que ces quelques événements vont vous permettre de commencer l'année en beauté. Cogito, c'est déjà terminé. On se retrouve le mois prochain, mercredi 6 février, pour parler de science en compagnie de ses principaux acteurs, les chercheurs. Nous nous intéresserons à la recherche contre le cancer. Les découvertes dans ce domaine à Poitiers sont riches et ouvrent de nombreuses perspectives trop méconnues des Pictaviens. Vous en avez eu un petit aperçu dans l'actu de cette émission. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission Cogito dès demain sur le site de Pulsar ou celui de l'Université de Poitiers qui s'est refait une petite beauté. Toutes les émissions, les infos sur les invités et l'agenda sont bien rangées dans l'onglet « Recherche Cogito ». N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux de Pulsar ou de l'université, on veut savoir si Cogito vous plaît. Au nom de l'Université de Poitiers, je vous souhaite à tous une heureuse année 2013, riche en émerveillement scientifique. Bien sûr, à très bientôt dans Cogito et bonne soirée sur Pulsar.
Qu'est-ce que tu aimerais ? Je voudrais que la Terre devienne un jardin, que les hommes n'arrêtent pas de chanter comme des petits oiseaux, qu'on leur donne